Het is gift.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé, humilié, déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Alors bonjour, donc vous êtes bien à l'écoute de Papillon sur Radio Duo 89.5. Donc on va rappeler ce que c'est Papillon. Donc Papillon, c'est une émission qui parle surtout de la prison, mais également de l'enfermement en général. Son but, c'est de faire le lien entre le dedans et le dehors. Donc cette émission, par le biais d'analyses, de débats et d'infos, se veut un outil de lutte et de réflexion, mais aussi un espace où les détenus, leurs proches et leurs familles, et aussi toute personne qui se mobilise sur le sujet, peuvent s'exprimer. Ainsi, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages ou de vos opinions en nous écrivant à l'adresse suivante. Donc, émission Papillon, chez Radio Dio, 15 bis rue de Roubaix, 42 000 Saint-Étienne. Ou alors par internet, émissionpapillon@riseup.net. Donc, riseup, R-I-S-E-U-P. Donc, aujourd'hui, on est le dimanche 3 mai 2009. Cette émission, elle sera rediffusée le jeudi 7 mai à midi et aussi à 17h. Donc sur Radio Dio 89.5, où ça, on peut être aussi écouté sur le net en direct sur www.radiodio.org. L'émission sera aussi rediffusée sur Lyon et ses environs, donc sur Radio Canu 102.2. Et ça sera le mardi 19 à 20h, ou sur le net, donc http://radio.canu.free.fr. Donc là, on va faire vite fait le petit sommaire. Donc aujourd'hui, on va débuter avec un interview de Céline, qui est de l'OIP. Donc l'OIP, c'est l'Observatoire International des Prisons, donc Rhône-Alpes. Ensuite, on va évoquer vite fait les recours pour les détenus. On fera un petit topo sur le contrôleur des prisons. Ensuite, on fera une petite lecture sur les longues peines. Et on fera aussi le point sur les lois sécuritaires qui sont passées depuis un an, et on finira avec un agenda. Donc voilà.
Donc Céline, tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Donc bonjour à toi, merci d'avoir accepté de parler de l'OIP à l'antenne de Le Papillon. Donc en fait, je vais resituer. Donc voilà, on parle souvent dans le cadre de Papillon des structures auxquelles les prisonniers peuvent faire appel dans le cas de problèmes, par exemple, avec l'administration pénitentiaire. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'on en parle très, très brièvement, très succinctement. Et du coup, là, on a voulu passer un peu plus de temps. Et donc, eh ben, on voulait laisser la parole à l'OIP Rhône-Alpes. Et on va te laisser te présenter l'OIP et discuter un peu autour de ça. Voilà.
D'accord. Alors, je coordonne la région Rhône-Alpes, en fait, pour l'Observatoire international des prisons. Donc, l'Observatoire international des prisons, c'est une association qui organise une vigilance citoyenne autour de chaque lieu de détention. Donc, plus particulièrement, en fait, c'est une association qui vise à faire en fait en sorte que les droits des personnes incarcérées soient respectés et que les personnes soient incarcérées dignement. Donc pour cela, on observe ce qui se passe dans les prisons. On protège les droits des personnes détenues en répondant à toute sollicitation de la part donc des détenus, de leurs familles, de leurs proches. Et puis on alerte en fait l'opinion publique et les pouvoirs publics dès lors que l'on constate des dysfonctionnements de l'institution carcérale ou des manquements aux droits de l'homme. Donc voilà un peu pour les principales missions de l'Observatoire international des prisons. Donc moi je m'occupe en fait particulièrement de tous les établissements pénitentiaires qui sont situés en Rhône-Alpes. Et donc voilà.
D'accord. Et en fait, donc, pour récolter les informations, etc., comment ça se passe ?
Est-ce que D'accord. C'est... Alors, en fait, il y a plusieurs manières. Enfin, donc, on a un fonctionnement. Déjà, tout d'abord, toutes les personnes, en fait, donc, comme je le disais, toutes les personnes qui sont détenues, mais ainsi que leurs familles, leurs proches, peuvent nous écrire ou nous contacter pour justement nous alerter, nous informer de problèmes qui rencontrent en détention, de difficultés d'avoir accès à certaines informations, mais aussi bien de leur situation dès lors qu'ils considèrent que leurs droits ne sont pas respectés, donc ils peuvent nous saisir. C'est déjà une première source d'information pour nous, pour l'OIP. Ça nous oriente vers certains problèmes, vers certains dysfonctionnements. Après, c'est à nous justement de voir si le problème est un problème qui est plutôt particulier à la personne qui nous a saisi ou si c'est un problème qui est général et qui concerne tel établissement en particulier. Donc ça, c'est une première source d'information pour nous. C'est vrai que ça nous vient de toutes les sollicitations, tous les gens qui nous saisissent de problèmes. Ensuite, on travaille aussi beaucoup sur la base de documents officiels. Les rapports d'activité, de la maison d'arrêt, enfin des établissements pénitentiaires, de tous les services en fait qui travaillent en prison. Donc je pense notamment au service pénitentiaire d'insertion et probation, le SPIP, à l'UXAL, les infirmeries des prisons, le rapport d'activité de la prison. Qui est fait par la direction. Enfin voilà, on travaille aussi beaucoup sur la base de ces documents-là, qui sont des documents dans lesquels on apprend quand même aussi un certain nombre de choses sur ce qui se passe dans tel ou tel établissement. Et puis, pour observer, on a également, on travaille en lien en fait avec des personnes qui travaillent ou qui interviennent en détention, des personnes qui, dans le cadre de leur mission, à un moment donné, sont témoins de certaines choses qui se passent à l'intérieur, et puis qui ont envie d'en parler à l'extérieur, en fait, et puis qui nous relaient aussi un certain nombre d'informations, ou auprès desquelles on peut vérifier aussi un certain nombre d'informations. Donc, c'est un petit peu au travers de toutes ces choses, en fait, qu'on observe ce qui se passe à l'intérieur, puisque c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais l'OIP n'intervient pas en détention. C'est-à-dire qu'on observe ce qui se passe à l'intérieur des prisons sans intervenir en prison pour des questions de neutralité, d'impartialité vis-à-vis de l'institution face à laquelle on dénonce les dysfonctionnements. Voilà.
D'accord. Alors ça, c'est pour les missions d'observation. Mais en ce qui concerne, donc il y a aussi la phase d'alerte et de protection des détenus. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu ce pan-là et...
D'accord. Alors, en fait, la phase de protection, il y a deux choses. Protéger les droits des personnes incarcérées, c'est les aider à tout d'abord à connaître leurs droits. Bien souvent, c'est vrai que les personnes qui sont en prison, bah, malheureusement, elles ont aucune, pour la plupart, elles n'ont pas connaissance de ce à quoi elles peuvent prétendre, de ce qu'elles ont droit. En fait, elles ont l'impression d'être privées de tout. Donc la première chose, c'est vraiment faire connaître leurs droits aux personnes incarcérées. Donc comme je le disais, ça va aussi un petit peu avec le travail d'observation, c'est-à-dire que de la même manière, les personnes donc qui nous écrivent, etc., toute sollicitation donne lieu à une réponse de la part de l'OIP. Donc ça va être justement de l'aide, de l'orientation, du conseil juridique. Une personne qui va nous dire, par exemple, je sais pas, qu'elle a des difficultés d'accès, enfin que elle sait pas par exemple quelles sont les démarches à faire pour avoir un parloir, enfin ce genre de choses. Voilà, on va répondre. Voilà, ça peut être des choses toutes simples, des questions toutes simples concernant le quotidien carcéral, et puis des choses un peu plus techniques, justement peut-être un petit peu plus juridiques. Voilà. Toute sollicitation donc fait l'objet d'une réponse. Et puis on a également l'OIP des publications, des ouvrages, le guide du prisonnier et puis le guide du sortant de prison notamment, qui sont des guides principalement à destination des personnes détenues que l'on distribue en fait gratuitement à toutes les personnes détenues qui en font la demande. Donc ce sont des guides, voilà, qui retracent un petit peu, le guide du prisonnier notamment, qui retrace un petit peu tout le parcours en détention, de l'arrivée en détention jusqu'à la sortie. On explique un petit peu justement par thème, par notice, ce à quoi les personnes, enfin comment ça se passe, comment ça fonctionne, le fonctionnement de la prison, le fonctionnement, enfin l'accès aux soins, comment ça se passe, comment il faut faire la demande pour voir un spécialiste, un médecin, enfin voilà, toutes ces choses-là, on les trouve dans nos publications, et ces publications, il faut nous en faire la demande et on les envoie gratuitement aux personnes détenues. Donc c'est ça en fait. Et faire connaître ses droits à la personne incarcérée.
D'accord.
C'est la protection.
Et donc, il y a aussi vous communiquez aussi sur, auprès de la presse, sur des,
voilà,
sur des choses qui se passent.
Voilà, donc ça, c'était la troisième mission, l'alerte. Ouais. Voilà, dès lors qu'on constate un dysfonctionnement, un manquement aux droits de l'homme, qu'on en est sûr que les faits sont vérifiés, qu'on a réussi à les recouper, etc. Dans ces cas-là, on va alerter l'opinion publique, les pouvoirs publics, toutes les organisations qui peuvent être intéressées justement par la question, par le biais d'un communiqué de presse.
Alors justement, sur cette histoire de communiqué de presse, il y en a un qui est paru récemment donc dans la presse locale, qui concerne la Talaudière. Mm-hmm. Donc ça serait bien de raconter un peu... comment ça s'est passé, cette histoire-là, et puis si tu as d'autres exemples d'intervention sur la région, à Rouen notamment peut-être, enfin bref, voilà, si tu peux parler de tout ça.
D'accord, alors en fait à Saint-Étienne, donc ce qui s'était passé, c'est qu'on a été informé, donc l'OIP, d'une pratique en fait, alors au départ ça concernait une personne, et puis en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était systématique pour toutes les personnes qui étaient dans la situation qu'on apportait à notre connaissance. Donc en fait il s'agissait d'une personne qui est très fragile psychologiquement et qui avait pris une sanction de quartier disciplinaire.
Donc à la Talaudière.
Je tiens à rappeler, malgré finalement sa fragilité psychologique qui était quand même assez connue au sein de la prison, on a prononcé à son encontre donc une peine de mitard, de QD en fait. Il se trouve que cette personne est examinée par un psychiatre qui considère en fait que la personne ne peut pas être placée au quartier disciplinaire compte tenu de son état clinique, son état de santé, etc. Donc, comme ça se passe habituellement, dans ces cas-là, la personne n'effectue pas la sanction et est placée en cellule ordinaire, en fait. Donc, elle retourne dans la détention, dans le quartier de détention normal. Sauf que là, à la Talaudière, ce qui s'est passé, c'est que cette personne était effectivement replacée en cellule ordinaire, etc. Mais on lui a fait savoir que tant qu'elle effectuerait pas le mitard qui avait été prononcé à son encontre, eh bien, elle aurait droit à un régime spécial de promenade qui consiste en fait à faire ses promenades dans la cour de promenade du quartier disciplinaire, donc qui est à la maison d'arrêt La Talaudière et au quatrième étage, qui est minuscule, qui est complètement grillagé, etc. Et donc voilà. Et alors le problème dans cette là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de chantage en fait de la part de l'administration pénitentiaire, qui consiste à dire à la personne, bon ben tant que tu effectues pas la sanction, et ben t'auras, enfin voilà, on va te mettre sous ce régime particulier, etc. Ce qui était très très mal vécu par la personne, puisque c'était pas simplement par exemple le temps de la sanction, comme si elle avait pris par exemple 30 jours de quartier disciplinaire, pendant 30 jours, bon ben en cellule ordinaire, mais avec un régime de prisonnier spécial. Là, ça, la mesure en fait, elle a duré pendant 7 mois. Elle s'est arrêtée non pas parce qu'on est intervenu, mais parce que la personne en fait a été transférée, donc ça s'est un petit peu arrêté, la mesure s'est arrêtée de fait en fait, voilà. Et en fait, enfin je rappelle, c'était une personne voilà qui était très fragile psychologiquement. On exerce sur elle une certaine pression à faire justement un chantage pour qu'elle fasse sa peine de quartier disciplinaire. Et donc voilà, et en creusant un petit peu, on s'est aperçu en fait à l'OIP, en essayant un petit peu d'avoir plus d'informations, donc en contactant différents interlocuteurs, intervenants ou travaillant à la maison d'arrêt, on s'est aperçu finalement que cette mesure-là, elle n'était pas propre à la personne donc qui a fait l'objet du communiqué, mais à toutes les personnes en fait pour lesquelles on prononce une sanction de quartier disciplinaire, mais qui ne sont pas en mesure d'effectuer cette sanction en raison de leur état psychologique. Voilà.
Donc c'est un peu du harcèlement psychologique sur cette personne de la part de l'administration pénitentiaire.
Voilà, complètement. C'est une sanction qui est... Enfin, ça revient en fait à sanctionner une personne, puisque rien ne prévoit... Enfin, c'est une sanction qui n'existe nulle part, rien ne prévoit dans les textes que lorsque la personne ne peut pas être à même d'effectuer le quartier disciplinaire, il faut la punir différemment. Enfin bon, c'est voilà. Parce que effectivement, ce qui ne figure pas non plus dans le communiqué, mais c'est que cette personne en fait avait fait une tentative de suicide, donc vraiment une personne très fragile. Et ce que je tiens à rappeler aussi, enfin j'en profite pour rappeler que c'est vrai que le quartier disciplinaire, je crois quand même que c'est le quartier le plus inhumain qui existe au sein de la prison. Il faut surtout pas placer des personnes qui sont dans une fragilité psychologique et qui sont repérées donc voilà comme fragiles ou comme suicidaires au sein du quartier disciplinaire. Et pour autant, voilà, on fait peser par ailleurs une certaine pression sur la personne. Et le risque dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, il y a une rupture de soins. C'est-à-dire que la personne en est marre et qu'elle se dise, et c'est ce qui est arrivé un petit peu dans l'histoire, la personne en avait tellement marre d'avoir ce régime particulier qu'elle était sur le point de se dire, bon ben finalement, je vais plus aller voir le psychiatre, comme ça il ne me délivrera plus de contre-indications médicales. Et puis finalement, bah, je vais la faire cette peine de quartier disciplinaire, comme ça je serai tranquille. Mais c'est pas là la solution. C'est pas comme ça qu'il faut procéder, quoi, en faisant peser une pression sur la personne pour que à tout prix elle exécute la sanction. Enfin voilà. Donc là, effectivement, fait cette pratique, etc. Une fois qu'on a su que ça existait, que c'était pratiqué à la maison d'arrêt La Talaudière, ça a fait l'objet d'un communiqué qu'on a envoyé à la presse pour dénoncer justement la situation en question et au-delà de la dénonciation, essayer de faire cesser le dysfonctionnement et que ça ne se reproduise plus dans l'avenir.
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu dans la presse que le directeur de la maison d'arrêt ne souhaitait pas s'exprimer à ce propos-là. Puis en plus, c'est que ça remet totalement en cause son discours comme il peut se quand il est présent dans des manifestations publiques où il dit non, ça va bien la maison d'arrêt, on fait tout pour le bien-être des détenus, etc. Enfin bref, c'est comme si on était dans le monde des bisounours, quoi.
Mmh. Et... complètement, d'autant plus que dans cette affaire, sur ce communiqué, le directeur en fait, la direction interrégionale a annulé la décision supérieure hiérarchique en fait du directeur a annulé la décision par rapport au cas précis du communiqué, la décision de placement, etc., sous ce régime spécial, etc., a été annulée par son supérieur hiérarchique, le directeur interrégional.
Mais du coup, juste pour ceux qui ont quoi ?
Je pense que ça peut, une position peut... d'autant plus délicate qu'il n'a pas été suivi par sa hiérarchie.
D'accord, mais en fait, c'est pour ce cas-là. Après, ça peut très bien se reproduire par rapport à d'autres détenus.
Complètement. Alors, je sais qu'actuellement, à La Talaudière, il y a d'autres détenus qui sont dans cette situation. Je ne sais pas au nombre de combien, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu et qui vivent là actuellement le même régime. Je pense que maintenant que la direction interrégionale est intervenue dans cette affaire. Et que parce que je crois que la direction interrégionale là pour le coup n'a pas été au courant tout de suite en fait de la pratique, c'est vraiment une pratique interne à la Talaudière qui n'existe pas d'ailleurs dans les autres établissements de la région Rhône-Alpes, en tout cas j'entends. C'est vraiment propre, alors là pour le coup c'est une pratique qui était vraiment pratiquée comme ça depuis je sais pas combien de temps à la Talaudière. Mais qui existe que là-bas et pas dans d'autres prisons en Rhône-Alpes. Donc j'espère maintenant que les gens, enfin que les autorités, etc., ont été informées que la pratique va prendre fin. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il va falloir veiller à ce que ça ne se reproduise pas pour d'autres, sachant qu'il y a également un recours en fait devant le tribunal administratif contre cette mesure.
D'accord. Donc ouais, ça montre bien en fait les situations individuelles et arbitraires des prisons, enfin de chaque prison en fait, de chaque établissement.
Oui.
Et vu qu'on est quand même un peu limité dans le temps, je voulais te demander aussi comment ça se passe, enfin assez rapidement le contact quand il y a un cas qui se présente, le contact avec l'individu, est-ce qu'il est aisé, enfin par rapport à l'administration pénitentiaire, comment ça se passe aussi avec l'administration pénitentiaire, etc.
Si on nous écrit à nous.
Comment?
Si ils nous écrivent à nous, c'est ça?
Enfin, est-ce que l'administration pénitentiaire facilite un peu justement cette prise de contact? Enfin, comment ça se passe quoi?
La prise de contact avec l'OIP.
Voilà.
Ouais. Alors, a priori, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes, souvent à nous écrire par peur des représailles vis-à-vis justement de l'administration pénitentiaire. Alors, jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Je crois pas que l'administration pénitentiaire facilite pour autant quoi que ce soit, mais elle empêche pas non plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les courriers nous arrivent complètement normalement. Quand on répond, c'est pareil. Souvent, on demande communication d'un certain nombre de documents aux personnes qui sont détenues. Ils nous les envoient, ça pose pas de problème, il n'y a pas de retenue de courrier. Je rappelle juste que voilà, la rétention de courrier, c'est quand même bien réglementé, donc c'est quelque chose qu'on laisserait pas passer si effectivement on s'apercevait que les personnes cherchent à nous écrire, mais leur courrier nous arrive jamais, etc. Il y a quand même des motifs et des raisons pour pouvoir retenir le courrier. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'on ne fait pas partie des autorités avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé. Donc c'est vrai que les courriers, que ce soit ceux qu'on envoie ou ceux que les détenus nous envoient, sont lus par l'administration pénitentiaire.
D'accord.
Mais voilà. Enfin, même quand ça dénonce des problèmes, il nous en arrive quand même régulièrement. Des courriers qui nous dénoncent quand même de gros problèmes, voire parfois des gens qui donnent certains noms de surveillants ou autres, et pour autant les courriers nous arrivent, et voilà, enfin, tant qu'il n'y a pas d'insultes ou de choses vraiment, les courriers nous arrivent sans aucun souci, et les correspondances, généralement, ça se passe plutôt bien. Après, c'est vrai que... Ouais, non, voilà. Ça
d'accord. Et une dernière question avant que tu redonnes le contact et tout, de l'OIP et tout ça,
mm-hmm.
pour écrire, si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres affaires, est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations à la Talaudière ou pas?
Alors, à la Talaudière, j'avoue que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de contacts ni connaissances de ce qui s'y passait vraiment. Et ça se fait depuis à peu près... c'est un peu plus récent, justement, où là, on commence à avoir de plus en plus de courriers qui nous arrivent. Donc là, c'est vrai que j'ai pas d'éléments vraiment vérifiés d'une situation dans laquelle je peux parler avec... voilà, je dirais qu'après la Talaudière, comme toutes les maisons d'arrêt, je réinscrirais ça dans le contexte plus général des maisons d'arrêt rencontrent les mêmes problèmes un petit peu que tous les établissements pénitentiaires de manière plus générale. C'est-à-dire que là, on a évoqué une pratique qui était bien particulière à la Talaudière, mais après, je dirais que pour les autres situations, la Talaudière est touchée des mêmes problèmes que toutes les maisons d'arrêt. Donc, je pense assez aux problèmes de surpopulation, enfin tous ces problèmes, des conditions de détention qui sont limites, etc. Voilà. Mais au même titre que d'autres établissements, elle n'est pas épargnée. Et voilà.
Ok, d'accord. Et alors écoute, là on va terminer. Donc par contre, je vais te demander de rappeler les coordonnées de l'OIP. Donc c'est à Lyon.
Voilà.
Alors vas-y.
Alors c'est le. Donc en fait, il faut écrire au 57 rue Sébastien Griffe, Griphe. Et on est dans le 7e arrondissement à Lyon.
Donc voilà, 69
en précisant simplement sur le courrier que c'est à l'ordre de l'OIP. Enfin, juste avec le truc OIP et ça passe.
De toute manière, on rappellera les coordonnées à la fin de l'émission.
D'accord.
Donc voilà, pareil, donc on est en contact avec l'OIP, donc toi tu nous sollicites, nous on se sollicite mutuellement, donc voilà, enfin, donc on n'hésite pas à collaborer aussi ensemble.
Oui, pas
donc
de problème.
On se tient au courant. Et puis, on te remercie très chaleureusement de ta participation à l'émission.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et puis, à très bientôt.
Pas de problème.
Allez, au revoir.
Cortatou, si tu veux préciser, Alex, un peu ce que c'était.
Oui, comme tu dis, c'est Cortatou et mon basque est assez médiocre, mais le titre s'appelle Zou Attrapatou Arte.
Vraiment médiocre.
Ok, donc on va enchaîner à donner encore quelques précisions sur les recours que les détenus peuvent faire quant à leurs conditions de détention. Donc. Vite fait, quand en fait on estime que l'administration pénitentiaire a pris une décision illégale ou non équitable, qui n'est pas équitable en fait, on peut faire divers recours. Donc soit auprès de l'administration pénitentiaire, un recours gracieux ou recours hiérarchique, donc auprès du directeur de la prison, de la direction régionale. Mais ce qui, selon les conseils de l'OIP, est plus efficace, c'est d'écrire à des magistrats ou à des élus. Et dans ce cas, les courriers sont confidentiels, en fait. Et ça ne marche pas toujours, mais ça peut marcher. Et on peut aussi saisir le juge administratif du coin pour lui demander de contrôler une décision de l'administration pénitentiaire. Enfin, il y a aussi une commission de surveillance pour chaque prison qui existe. Mais pas grand monde le sait. Apparemment, elle ne sert pas à grand-chose. Donc c'est peut-être pas forcément utile de s'adresser à cette commission. Déjà pour la trouver, je pense que c'est à peu près impossible. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez protester contre une décision de l'administration, vous pouvez le faire. Et si vous voulez des conseils, trouver des infos que vous n'arrivez pas à trouver de là où vous êtes, vous pouvez vous adresser à nous. Donc je rappelle l'adresse, émission Papillon. Chez Radio Dio, 14 et non pas 15, rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne. Et puis vous pouvez aussi et surtout écrire à l'OIP, dont on rappellera le contact à la fin de l'émission. Voilà. Et aussi vous pouvez, enfin il y a aussi la solution des mobilisations collectives, comme il y a parfois dans les prisons, qui est aussi qui a aussi une certaine efficacité, parfois plus.
Voilà, donc on va enchaîner là tout de suite sur le rapport qu'a rendu le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui s'appelle Jean-Michel Delarue, qui était célébré en grande pompe par par Rachida Dati. Donc voilà, il est au poste depuis juin 2008. En fait, j'ai dit, il s'appelle Jean-Michel Delarue. En fait, c'est Alex me déconcentre en train de servir des verres d'eau. Donc il a rendu son rapport, un rapport de 250 pages sur lequel il revient sur un certain nombre de choses pas très nouvelles quand on s'intéresse un petit peu à la question carcérale. Et donc ce rapport, il l'a rendu le 8 avril 2009. Il est là normalement pour surveiller tous les lieux de privation de liberté. Donc ça passe par les prisons, les centres de rétention, mais également les locaux de garde à vue et les locaux de rétention administrative, qui sont les lieux qui sont des substituts aux centres de rétention dans des régions où il n'y a pas de centre de rétention administrative. Donc voilà, donc dans ce rapport, il revient sur un certain nombre de choses qu'on sait déjà. Des choses intéressantes, parce qu'il dénonce, il faut le dire, quand même un certain nombre de choses, notamment les fouilles à corps, le respect de l'intimité, tout ça. Il revient sur les parloirs, le manque de liens familiaux en détention. Il est assez critique par rapport aux locaux de garde à vue. Donc en fait, je voulais juste revenir sur le fait, la nomination de ce contrôleur, elle rentre dans le cadre en fait d'une convention du CPT, en fait, du Centre contre la torture, et aussi d'un rapport de la Commission européenne des droits de l'homme. Donc il n'y a rien de très nouveau en fait, et c'est même assez vieux puisque c'est d'une loi, enfin c'est prévu qu'il soit depuis octobre 2007, c'est prévu qu'il soit à ce poste-là, quoi. Donc en fait, logiquement, toute personne détenue ou ayant passé en garde à vue dans un lieu de privation de liberté peut le saisir, en fait, peut l'appeler en toute indépendance. En fait, c'est ce qui était prévu à la base. Logiquement, en toute indépendance, avec le respect de la confidentialité, etc. Donc voilà, peut-être que je donnerai l'adresse à la fin du truc. Néanmoins, même si ce rapport peut être intéressant, parce qu'il remet un peu au goût du jour des certaines choses qu'on nous répète à chaque fois qu'on parle de prison, c'est-à-dire la vétusté des locaux, la surpopulation, etc. On peut se poser quand même un certain nombre de questions, notamment par exemple au niveau de la soi-disant confidentialité des données. En fait, il se trouve qu'il y a plusieurs détenus qui ont saisi ce contrôleur, qui ont été victimes de représailles de la part de l'administration. D'ailleurs, il le fait assez remarquer plusieurs fois, le contrôleur, c'est que, en gros, l'administration fait tout pour savoir, en fait, même à... je reprends ces termes. C'est-à-dire toute personne qui le saisisse, qui lui écrive, ou toutes les personnes qu'il va visiter en prison, sont soigneusement relevés par l'administration pénitentiaire ou par des fichiers de la police nationale si ça concerne par exemple des gardes à vue. Et il dit même que ces derniers justement tiennent un tableau nominatif national des saisines du contrôleur. C'est-à-dire que en gros la soi-disant indépendance du contrôleur est sérieusement remise en question, et c'était pourtant quand même l'un des arguments phares du ministère de la Justice et de Rachida Dati. Il y a même le cas d'un détenu qui, après avoir eu des représailles, a encore écrit donc à ce contrôleur, Jean-Michel Delarue, et notamment il se fait traiter de balance par le personnel pénitentiaire, etc. quoi. Donc voilà. Ensuite, il a rendu, surtout un rapport plus détaillé, on va dire, notamment sur la prison de Villefranche, en fait. Un rapport, en fait, qu'on pourrait appliquer finalement à toutes les autres prisons, parce que bon, il a relevé 5 recommandations. Et ce qu'il faut noter, c'est que à la base, quand il est parti visiter, c'est une équipe, hein, il n'est pas tout seul, ils sont une dizaine. Quand ils sont allés à Villefranche, ils ont précisé que Villefranche n'était pas une prison réputée, qui n'avait pas une sale réputation, qui avait des locaux assez neufs. Donc c'était pas vraiment le problème, en fait. Il dit quand même, j'ai trouvé quand même une chose assez intéressante qu'on savait déjà, mais notamment tout ce qui est dans ce qu'on appelle le parcours d'exécution des peines. Il met quand même assez en évidence justement le traitement de faveur et le favoritisme de l'administration pénitentiaire pour justement diviser les détenus et donner aux plus méritants, donc que ce soit des formations en vue de réinsertion, des droits d'accès au téléphone, des meilleures conditions de détention, etc. Et donc il met un peu le doigt sur la ségrégation que l'administration pénitentiaire crée au sein des détenus, quoi. Il a également, on en avait parlé l'autre fois à une autre émission, fait un point sur les caillebotis aux fenêtres pour éviter justement le yoyotage, donc ça il le dénonce, quoi, on va dire ça. Il y a aussi par rapport aux cours de promenade, bon là quand il parle avec un langage assez bizarre que j'aime pas trop, mais bon, de reconquête des cours de promenade, et il fait en fait référence à la fameuse bagarre dont Mehdi nous avait parlé il y a quelques mois à Villefranche, qui c'est des lieux de...
Il en avait pas parlé à l'antenne, justement.
Ah si, moi il me semble qu'il en avait. Bon, enfin bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, voilà. Voilà, du manque d'activité, notamment surtout à la prison de Villefranche, et aussi surtout du manque de possibilités de recours accordées aux détenus, et notamment la lecture des lettres, et même si bon, Céline nous a dit qu'il n'y avait peut-être pas forcément de rétention de courrier, en tout cas ça peut quand même dissuader des gens qui, sachant que les lettres seront lues par la personne dont on se plaint, si un détenu va se plaindre d'un maton par exemple, qui sait qu'elle va être lue par ce même maton, ça va forcément le dissuader un peu, même si la rétention de courrier ne se fait pas quand on passe à l'acte. Mais toujours est-il qu'on dissuade justement ce passage à l'acte-là, quoi. Donc voilà, bon, sur les locaux de garde à vue, il en a beaucoup parlé aussi, bon ça on le sait, je pense que n'importe qui a fait une garde à vue sait que c'est vraiment en fait la pire des choses qui est, quoi, niveau tout, niveau hygiène, niveau le droit d'accès à avoir un médecin, on vous retire vos lunettes, si vous êtes une fille, on vous retire votre soutien-gorge, de peur qu'on fasse des choses avec, la baleine, le fer, le bout de fer du soutien-gorge. Il parle pas mal aussi la mauvaise relation entre les familles et l'administration pénitentiaire, etc. Donc voilà, en fait, des choses qu'on nous ressort en fait tous les à chaque fois qu'on va parler des prisons, quand il y a des films, quand il y a des choses, des rapports un peu tape à l'œil. Donc ça fait la une des médias pendant quelques temps, et voilà, quoi. Et après, même si c'est assez louable, c'est quand même la première fois qu'il y a soi-disant quelqu'un qui est soi-disant indépendant, et que voilà, il y a quand même, on peut se poser des questions quant à la réaction du gouvernement, parce que logiquement ce contrôleur est censé convoquer directement les ministères et qui ont obligation de répondre. En fait, moi j'ai pas vraiment entendu Sarkozy ou Rachida Dati en parler. Il y a même Sarkozy qui a repoussé plusieurs fois le rendez-vous quand le contrôleur devait remettre le rapport. Donc on peut vraiment se douter de l'importance que donnent nos dirigeants à ce rapport-là. Bon, après, il était peut-être trop occupé pour faire des lois sur les bandes ou sur les cagoules, quoi. Mais en tout cas, bon, il n'en a pas trop tenu rigueur. Et la seule réponse que Rachida Dati a donnée, c'est qu'il y allait avoir la réforme pénitentiaire, etc. Chose que par exemple l'OIP ou même le contrôleur, le Jean-Marie Delarue, là, qui est pas un gros rebelle, hein, il est loin d'être pour l'abolition des prisons, quoi, disent que c'est pas suffisant les efforts qui seront donnés pour cette réforme pénitentiaire, quoi. Donc voilà, il y a une phrase qui est assez révélatrice quand il parle des locaux de rétention administrative, où il dit qu'ils sont indignes justement, et qu'il dit parce qu'ils sont souvent dans des locaux désaffectés de policiers, etc. Et il dit c'est intolérable, il faut créer des nouveaux locaux adaptés aux retenus, etc. Donc c'est toujours le même problème de ces garde-fous qu'on nous met et qui en fait au final, ça fait beau sur le papier, ça dénonce des choses, ça c'est un fait, on peut pas l'enlever, mais la question qu'on peut se poser, c'est ce que justement ça donne pas du crédit et de la légitimité pour perpétuer l'enfermement, ne pas le remettre en question et surtout ne pas remettre le système qui crée l'enfermement, quoi. Donc voilà, j'ai fini, j'étais assez brouillon, mais voilà. À quoi on passe là maintenant? Enfin moi, sauf si quelqu'un veut rajouter.
Faire une remarque, c'est qu'en fait, il y a plein de dossiers et de rapports qui se pondent, et en même temps, il y a toujours plus de prisons qui se construisent, donc ça c'est clair. Et par rapport, juste pour préciser, la baston qu'il y avait eu à Villefranche, Mehdi, je ne sais plus si on avait parlé, enfin bref, mais bon, c'était une baston entre détenus. Et il avait expliqué que les surveillants n'intervenaient pas, mais qui prenaient les paris sur qui allait gagner et qui allait matraquer qui dans la courte promenade. Donc voilà, c'est un petit jeu de surveillants qui est assez répandu visiblement, puisque c'est pas la première fois qu'on entend ça.
Surtout qu'il ne remet pas en cause la longueur des peines, il ne remet pas en cause le taux d'incarcération élevé de pire en pire. Quoi. Donc voilà, bon.
Un petit morceau.
Oui, c'est un morceau. Ah oui, ben un morceau de soul.
We met, we loved, we laughed, we cried. You went away, and my love should have died. But I still feel myself holding your hand. How we laughed about the little things most folks don't understand. Just ain't been able to forget about you, baby. I just can't forget about you, baby. Since you kissed my lips so sweetly, you changed my life completely. I stopped going to the places we used to go. When they play our favorite song, well, I turn off the radio. And even though I've taken all your pictures down, the memory of you in my heart is still so profound that I just ain't been able to forget about you, woman. I don't think I'll ever be able to forget about you, baby. Oh, since you kissed my lips so sweetly, change my life completely. When people ask me, where did the girl go? I smile and act as if I don't really know that they know.
Donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur le 89.5 FM sur Radio Duo. Donc nous allons passer à la suite et on voulait revenir sur le 15 février dernier, la tentative d'évasion de Moulins. Donc on va resituer donc, deux prisonniers qui s'évadent de la maison centrale de Moulins-Isère. Leur nom c'est Christophe Kider et Omar Topelhadj. Donc ils parviennent suite à l'issue d'un parloir du dimanche à prendre deux surveillants en otage, puis à faire sauter à l'explosif les portes qui les séparent de l'enceinte extérieure, avant de se faire ouvrir la dernière porte de sortie. Donc suite à cette évasion, qui durera 3 jours, deux femmes donc, qui étaient venues visiter Omar et Christophe sont immédiatement placées en garde à vue. Donc Sylvie, c'est la compagne de Christophe, elle fera la garde à vue en entier, donc le maximum d'heures. Donc pendant ce temps-là, son domicile sera mis complètement à sac lors de la perquisition et elle est actuellement incarcérée à la Talaudière. L'autre femme, Nadia, est quant à elle est arrêtée sur son lieu de travail à Paris et elle est soupçonnée d'avoir introduit les explosifs à l'intérieur. Quant à elle, elle est incarcérée à Bonneville en Savoie. Donc lors de cette évasion, le procureur aurait dit que les deux femmes auraient avoué lors de la garde à vue avoir participé à l'évasion. Donc après, on peut se demander aussi en garde à vue qu'est-ce qu'on est capable d'avouer vu les pressions subies, et participe complice d'une tentative d'évasion, et ben ça vaut perpète. Alors petite erreur, ça vaut pas perpète, ça vaut une très longue peine en France. Mais ça peut sembler perpète, vu que en fait, c'est une perpète déguisée, quoi, une longue peine. Donc en fait, et puis ce genre de discours aussi, donc ça participe au sensationnel de la presse, etc. Et puis en même temps, ça sert aussi à faire peur et à essayer d'enlever cette idée d'évasion ou de participer, aider un proche qu'on aime à s'évader, enfin en fait à cette idée de naître. Donc voilà, pendant la tentative d'évasion, les médias présentent Christophe et Omar comme des êtres extrêmement dangereux, sauf que pendant la cavale, les surveillants ont dit qu'ils n'ont pas été blessés. Un enfant qui était pris avec son grand-père en otage a dormi tout le long qu'il s'est retrouvé dans la voiture avec Christophe et Omar, il a dormi, ça ne l'a pas trop traumatisé. Et bon, on a quand même essayé d'en faire des bêtes violentes, enfin bref, voilà. Mais alors, pour situer du coup le côté de la violence, moi je trouve qu'il est plutôt intéressant de s'attarder sur le déroulement, de la fin de la cavale, puisqu'en fait, Christophe a été blessé par balle, et pas par des simples policiers comme les médias l'ont dit, mais par des tireurs d'élite qui savent très bien viser. Donc il a été blessé par balle à hauteur du cœur, donc au niveau du poumon, et de même pour Omar. Donc la violence après, elle continue avec la prise en charge médicale de Christophe notamment, puisque là encore, 12 jours après l'évasion et seulement 9 après l'interpellation et la blessure par balle, Christophe est transféré le 26 février à la santé et placé à l'isolement. Donc on peut quand même se poser des questions pour le déroulement du suivi médical. Enfin, une blessure par balle, une cicatrice en prison, c'est quand même un peu chaud quand même, surtout ce genre de blessure. En plus de ça, en mars, ils le font passer en commission de discipline pour répondre de l'évasion, et puis il écopera de mitard. Quant à Omar Topelhadj, il est placé au quartier d'isolement où se trouve Antonio Ferrara. Donc c'est le D5 de Fleury-Mérogis et qui est réputé d'être l'un les plus durs, quoi. Donc par ailleurs, en janvier dernier, on interviewait à la radio Catherine Charles, qui est la maman de Christophe. Voilà, on l'avait invitée à l'émission Papillon, et elle présentait le combat de l'Harpie. Donc l'Harpie, on le répète encore, et jamais assez, c'est l'association pour le respect des proches de personnes incarcérées qui lutte contre les humiliations quotidiennes que la paix fait subir, que la paix et le système judiciaire font subir aux personnes détenues et aux proches de détenus. Voilà, et elle participe aussi, organise un soutien juridique et moral à des personnes. Voilà, et elle avait aussi à cette époque-là évoqué l'enfermement de ses deux fils, donc Christophe et Cyril, donc tous deux condamnés à des longues peines, sachant que Christophe était à la base libérable en 2045 et que là va s'ajouter un autre procès, etc. Mais bon. Donc voilà, nous, il nous a semblé important de faire lecture d'un texte en fait qui mette à plat. Ce que c'est une évasion, ce que c'est le fait de s'évader et des réalités que ça recouvre. Parce qu'en fait, s'évader, c'est pas juste un bon scénario pour un film de fiction. C'est la réalité, et puis c'est un projet plutôt sensé contre l'acceptation de sa punition et d'une peine, qui, notamment pour les longues peines, qui ressemble à une mort déguisée en fait. Donc voilà, je voulais juste rappeler, avant de faire la lecture du texte, avec mes chers amis, qu'un directeur de prison, il me semble que c'était au procès d'Antonio Ferrara, avait dit qu'il préférait 10 suicides plutôt qu'un homme qui s'évade. Donc on voit là la valeur qu'on accorde aux êtres humains qui sont enfermés. Et aussi qu'en Belgique et en Suisse, s'évader d'une prison n'est passible d'aucune peine, puisqu'il est considéré comme un acte normal d'une personne saine qui est enfermée, en fait. Voilà, donc une personne enfermée, c'est normal qu'elle s'évade. Donc elle est reprise, mais pas condamnée pour ce fait, contrairement à la France. Donc voilà, donc, je vais vous faire lecture du texte. Je vais commencer. Un texte qui explique très bien ce que c'est la tentative d'évasion. Tenter de s'évader pour un prisonnier, c'est comme se mettre en grève illimitée pour un travailleur. C'est refuser de se laisser écraser, d'être transformé en marchandises corvéables et jetables, détruites dès qu'elle n'est plus rentable ou qu'elle refuse d'accepter les lois économiques d'un État au service des riches et des possédants. Il devrait être impossible pour un cerveau sain d'imaginer qu'un être humain puisse en enfermer un autre. Alors que dire de l'acceptation si répandue de voir des prisonniers emmurés à vie ou presque ? Ce délire de la longueur des peines a atteint son paroxysme. Et pour cause, 20 ans en moyenne, c'est devenu une mesure du temps, d'un temps économique, calculé, rentabilisé. C'est le temps d'un crédit bancaire, de l'éducation d'un enfant. C'est dans ce climat de misère que l'opinion publique ne parvient même plus à concrétiser ce que peuvent représenter 20 ans d'enfermement. Juste parce que l'être humain a fait sienne les idées d'individualisme en croyant qu'il pourrait s'asseoir à la table des puissants. Pourtant, aujourd'hui, n'importe quel pauvre devrait comprendre, pauvre entre guillemets, devrait comprendre que les prisonniers que l'on enferme ne sont pas dangereux pour lui, mais qu'ils servent de bouc émissaire, de repoussoir pour tenter de calmer toute envie de résistance. Quels dangers peuvent bien représenter Christophe Kider, Antonio Ferrara, Pascal Payet pour ne citer que les plus connus, à côté de voleurs patentés comme entre autres Marchiani, largement gracié par son ami Sarkozy, ou un vendeur d'armes responsable de la mort de milliers de personnes comme Jean-Christophe Mitterrand. Chaque fois qu'on ne voit pas que c'est un semblable, un frère qu'on tente d'éliminer, on accepte de continuer à se laisser exploiter.
Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas un fait divers. C'est un geste de survie d'un être humain que l'on tente de faire mourir à petit feu dans des prisons-bunkers où l'isolement sans limite est la règle. Cela fait plus de 6 ans que Antonio Ferrara subit un isolement total, sans jamais voir la lumière du jour, menotté et entravé au moindre de ses déplacements. Privé de tout contact avec quiconque, si ce n'est des surveillants surarmés appliquant ce régime nommé ICAR. Une évasion ou une tentative d'évasion n'est pas une scène d'un mauvais film devant lequel frémissent des millions de téléspectateurs. C'est le refus d'accepter l'hypocrisie d'une justice qui condamne à des peines sans limite, à des peines de mort à peine déguisées. Il y a peu de temps, 10 prisonniers longue peine de la centrale de Clairvaux avaient même demandé que soit rétablie pour eux la guillotine, préférant l'euthanasie à l'agonie infinie. Un directeur de prison a affirmé, lors d'un procès, que pour lui, il valait mieux 10 suicidés qu'un évadé. Pas difficile à vérifier quand on voit le nombre de morts derrière les barreaux pour le seul mois de janvier 2009. Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas un jeu. C'est un acte où les prisonniers mettent leur propre vie dans la balance, car les agents de l'administration pénitentiaire et les policiers ont pour ordre de tuer, dès qu'ils le peuvent, les candidats à la belle. Pour preuve, aucun blessé chez les surveillants durant l'évasion de Fresnes de 2003. Aucun blessé, aucune violence physique pendant l'évasion et la courte cavale de Christophe Kider et Omar Topelhadj. Dans les deux évasions, les seuls blessés sont les évadés ou leurs amis. Une tentative d'évasion ou une évasion, ce n'est pas des monstres dangereux et sanguinaires lâchés dans la nature, c'est des êtres humains qui veulent retrouver un peu de liberté, même s'ils savent que de toute façon, dans la plupart des cas, il y a un mur devant eux.
Une évasion ou une tentative d'évasion, ce n'est pas un coup pour rire, ce n'est pas une provocation. Ce sont, une fois les prisonniers repris, des années d'isolement, de transfert aux quatre coins de l'Hexagone, un traitement spécial. Ce sont autant de peines infligées aux familles et aux proches, même lorsqu'ils ne sont pas déclarés complices. Et pour ceux qui ont cherché à arracher par amour un emmuré de son tombeau, c'est le début d'un calvaire carcéral et judiciaire. Comment ne pas comprendre qu'une mère, un frère, une compagne ne supportent pas l'idée de laisser crever un proche ? Christophe Kider était, avant l'évasion de la prison de Moulins, libérable en 2045. Et si les médias, le pouvoir présentent ces hommes et femmes à qui il reste encore un peu d'humanité comme des parias, c'est pour essayer de faire accepter à tout un chacun que la prison, le contrôle à tous les niveaux, le tout sécuritaire serait le remède au dysfonctionnement de cette société fondée sur le profit pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre. C'est pour justifier la construction de nouvelles geôles, histoire de continuer à battre un record d'emprisonnés. Ils construisent dans l'urgence de nouvelles prisons, comme hier ils bâtissaient les bars des cités de banlieue. Ils préparent de nouvelles maisons de correction pour les enfants, des prisons spécialisées pour les détenus grabataires, d'autres pour les malades mentaux, et des prisons souterraines pour les détenus dangereux. Fermeture des quartiers d'isolement, fin des longues peines, solidarité avec les évadés, leurs familles et leurs proches.
Merci Alex. Alors, j'ai juste oublié de dire le titre du texte, c'est « Le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader ». À la fin de l'émission, on donnera les contacts, les numéros d'écrou et les adresses pour écrire à Christophe Kider, Omar Topelhadj et Sylvie Picciotti, donc les personnes qui sont incarcérées dans le cadre de cette tentative d'évasion de Moulins. Et j'ai peut-être une minute pour juste dire que Donc c'était mercredi jeudi dernier. Il y a eu le verdict de sept hommes de sept braqueurs présumés à la cour d'assises de la Loire. Et qu'en fait, donc, il y a eu des lourdes peines qui sont tombées, hein, des 12 ans, des 9 ans, etc. Et qu'en fait, la personne qui était condamnée le plus lourdement, voyant que ça allait, comparaître immédiate et voyant que ça allait être un peu chaud pour elle, et ben, elle a préféré prendre la fuite, se barrer, partir en cavale. Et voilà, et, vu qu'elle ne s'est pas présentée dans le box le mercredi après-midi. Et donc, on souhaite bonne chance et ça se comprend parce que quand on voit, c'est hyper difficile quand on est une famille, quand on est, j'étais à ce procès, au verdict, et c'est hyper difficile et il faut vraiment avoir les nerfs solides pour pouvoir vivre ce genre de situation. Et je pense que les jurés ne s'en rendent même pas compte qui décident de ces lourdes peines. Et donc voilà, on lui souhaite bon courage et voilà.
On va peut-être passer un petit morceau de musique, faire une petite pause.
Exactement, on va écouter un morceau de Alien et Chesco, qui font partie du collectif de rap Kima, qui sont de Tours, je crois, voilà, qui vont jouer à Saint-Étienne le 23 mai. Et c'est vachement bien. Et en plus, c'est des gens qui distribuent leur album gratuitement. Voilà. Et le morceau, il s'appelle Requiem sur partition ensanglantée, tiré de l'album du même nom. Voilà.
Le citron, la pose sur les zones engendre que la frustration. Alors si ça part en couille, je n'appellerai pas au calme. Trop d'arguments de raison cautionnent ce vacarme. Et puis un pansement n'empêche pas d'avoir eu mal. Une plaie à l'air libre, c'est la douleur qui respire. Quand un pays a faim, c'est normal qu'il parte en chasse. Assouvir ce besoin, quitte à ce qu'il y ait de la casse. Que les supermarchés crament et que chacun se sert. Aujourd'hui c'est gratuit, les calis sont pleins de concerts. Un pied de biche dans la porte, la banque restera ouverte. Le temps de se remettre à flot et de rembourser les dettes. Visitons les frigos des chaumières de Neuilly. Ce pain est un peu nôtre, pas la peine de lire merci. Y'a plus de morale de politesse quand il s'agit de survie. Je n'aurai pas de remords à dépouiller le fils Sarkozy. Et alors quoi? Ben oui, la France brûle. Sortez les calculettes et faites vous-même le calcul. Combien de riches pour un pauvre, le nombre et les loyales. Nos rangs s'épaississent, donc en face ils sont mal. Le monde a transformé le pauvre en animal. Alors si demain le pays fume, j'y verrai rien d'anormal. Et je me fous des conséquences de la meute s'élève, les hurlements, les loups vont marcher sur la France. Les fondations s'écroulent, le peuple est enragé, redoute les mouvements de la foule. La bataille est engagée, des vitrines brisées, des cabinets d'huissiers qui brûlent. Des mairies assiégées s'ouvrent les portes des cellules. V'là les pavés de nos doléances, de notre zéro tolérance. L'État paiera sa créance, plus les intérêts de nos souffrances. On n'imitera pas la casse, on ne retiendra pas nos coups. Je sais pas si c'est l'effet de masse, mais le peuple est devenu fou. La bourse s'effondre, toutes les valeurs sont à la baisse. Et croyez-moi, cette fois votre monde n'aura pas le temps de tourner sa veste. C'est notre geste citoyen, on vient récupérer nos voix, usurpés par tous les moyens. Vos mensonges ont bafoué nos droits, ça va se finir dans un bain de sang. Mais hélas, c'est inévitable, plus rien à se foutre sous la dent. Conserve vos têtes sur nos tables.
Not gonna be that easy.
Si le maintien de l'or passe par l'inégalité. Comprends que le futur va sentir un peu le brûler. Et quand les quartiers demain ensemble se soulèveront, t'entendras gémir chialer la plus aveugle des nations. À côté mai 68 passera pour une boum, et les émeutes de 2005 ne seront qu'un amuse-gueule. Des milliers de barbares qui mettent à sac les rues de la France, qui vengent les pauvretés, les manques et les offenses. J'appelle au soulèvement en me foutant les conséquences, car parfois le bonheur se trouve derrière des lits d'essence.
N'espérez rien récupérer, plus aucune volette à gratter. Vous saviez que vous périez, mais je m'assois sur vos regrets. On vient étouffer le système, lui mettre la tête sous l'oreiller. Ce chant c'est notre requiem, sans partition ensanglantée. Vos grognasses paient le prix fort, lapidés sur la place Vendôme. On ne compte plus les morts, ni même le nombre de villes fantômes. C'est une révolte prolétaire, l'issue vous est défavorable. Je crois que nos solutions sont claires et nos intentions honorables.
Là, on va poursuivre avec peut-être des choses plus réjouissantes, c'est-à-dire le départ annoncé de Rachida Tati. Oui. Bon, par contre, ce qui est moins réjouissant, je crois qu'il y a Darko, s'il a envie de prendre la place. Hein. Alors, attention. Bon, alors, avant son départ, on voulait mettre le point sur quelques petites lois qui ont quand même bien modifié notre société. Notamment les peines planchers. Donc, pour rappeler vite fait, les peines planchers, ça date de 2007, de l'été 2007. Et c'est en cas de récidive pour un suspect ou quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose, on applique une grille. Alors, ces peines planchers, ça remet en cause quand même pas mal le boulot des juges. Parce que jusqu'à présent, quelqu'un qui commettait un délit, on étudiait son dossier et on regardait, en fonction de la personne, on appliquait des peines. Donc, depuis 2007, on ne regarde plus, normalement, on ne doit plus regarder les dossiers et quand quelqu'un récidive, on lui applique automatiquement une peine qui est définie au départ. Alors, par exemple, sur Marseille, il y a eu un gars qui était déjà connu des services de police pour des vols. Et au bout d'un certain temps, il a eu droit à une peine planchée. C'est-à-dire que pour un vol, il avait volé du dentifrice, des CD et des rasoirs, genre. Enfin, un petit sac plastique pour moins de 100 euros. Et il s'est pris un an ferme parce qu'il était en récidive. Et le juge a voulu appliquer cette peine planchée. Alors, il faut savoir que les peines planchées ne sont pas appliquées systématiquement. Les juges se refusent quand même de participer à ça. Ils préfèrent étudier les dossiers et voir les personnes individuellement. Donc, il y a 50% des cas où les peines planchées sont appliquées. Et ça, c'est pour les délits mineurs. Après, pour les délits où il y a atteinte à la personne, violence conjugale, bagarre, les peines planchers sont appliquées plus facilement. Alors, ce qui est regrettable dans toute cette histoire, bien qu'on sache que la justice n'est pas très, pas rendue de façon très juste, mais néanmoins, avant les peines planchers, la personne n'avait pas systématiquement une peine lourde. Alors, ils ont fait tout ce blabla pour éviter que les gens récidivent. A priori, pour le moment, avec un an et demi de recul, on ne peut pas dire qu'il y ait moins de récidivistes. Par contre, ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a une population croissante de 5% en milieu carcéral. Donc la crainte des différents syndicats qui annonçaient une surpopulation croissante de 10% s'avère juste. C'est de 5%, mais il y a quand même plus de monde en prison, notamment avec l'exemple que je donnais pour des vols mineurs. Finalement, les peines planchers finissent par s'appliquer au bout, non pas de la deuxième fois de récidive, mais au bout de la troisième, quatrième fois, ils se disent bon, là, on va appliquer une peine planchée. Et d'autre part, Rachida Dati, elle a quand même épinglé certains juges, elle aura fait du chantage en leur disant attends, toi, tu n'appliques jamais les peines planchées, ça ne va pas, il faut que tu t'y mettes, parce que c'est avec ça qu'on va arrêter la délinquance en France. Donc, il y a une pression auprès des juges pour que ces peines planchées soient appliquées. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, alors pour compléter ce que tu disais, si on a eu envie aussi de parler des réformes pénitentiaires ou des lois pénitentiaires, je pense que c'était aussi parce que, évidemment, ça vient d'une certaine logique et d'un certain passé. Mais il y a quand même cette impression aussi que la prison devient l'horizon un peu immédiat de plus en plus de gens. Et en plus, c'est quand même des réformes et des lois qui restreignent encore plus tout dehors ou je sais pas quoi, et qui en plus, une fois qu'elles sont inscrites dans le code pénal, risquent de les rester pour un bon bout de temps malgré tout ce qui peut se passer. Et par rapport aux peines planchers, pour bondir un peu, on avait aussi envie de parler des attaques qui sont portées au système judiciaire. Alors on aura mis un peu de temps, on s'est pas mal posé la question parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de se plonger là-dedans, notamment par rapport à tout ce qu'on peut critiquer par rapport à la justice telle qu'elle fonctionne, mais non, et tout ce que peuvent représenter les juges et les magistrats. Mais n'empêche que toutes les réorganisations qui sont en train de se passer, ça touche aussi directement à la façon dont les gens sont jugés et la rapidité même à laquelle ils atterrissent en prison. Et notamment, il y a quand même un double mouvement. Donc quand tu parlais des peines planchées, en fouillant un peu, notamment sur le site du syndicat de la magistrature et sur le site du syndicat des avocats de France, il y a quand même tout ce truc qui est en train de se passer, qui est en train de restreindre encore plus le libre arbitre des juges et des magistrats, notamment par rapport à la peine planchée, mais aussi par exemple par rapport à la suppression des juges d'instruction. Voilà, ouais. Il y a quand même clairement ce mouvement-là d'appliquer une justice systématique, automatique, etc. Et après, il y a aussi tout ce qui peut se passer d'ailleurs pour d'autres secteurs. Le service public, en fait, quoi, avec la révision générale des politiques publiques, donc on en a beaucoup parlé, la réforme de la carte judiciaire, suppression massive de juridictions, de tribunaux, etc., la diminution des fonctionnaires, des magistrats, et aussi tout ce qui est en train de se passer, où il y a une sorte de logique productiviste au final qui arrive. Et la même chose par rapport à la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, qui peut bien sûr être contestable dans ses actions, etc. Mais il y a encore vachement ce truc, par exemple, la PJJ, alors on en reparlera peut-être parce que c'est super compliqué, la PJJ avait le civil et le pénal. Et en fait, le civil est en train d'être mis au département. Ouais. Enfin, il ne reste plus que le truc pénal. Et après, pareil pour la PJJ, il y a la fermeture des lieux, la fermeture de postes, la fusion de directions départementales, etc. Donc c'est tout un mouvement quand même qui a forcément des conséquences sur la justice telle qu'elle se pratique dans les tribunaux, en fait.
Bah déjà que ce n'est pas l'idéal, mais là, ça va être une catastrophe. Hein. Il y a des mouvements dans tous les coins, même si on n'approuve pas forcément comme elle est faite actuellement, la justice, mais comme elle sera dans 6 mois, ça sera encore pire. Et l'histoire des peines planchers, ça peut être bien pratique, effectivement, parce que les gens, les juges, ils auront tellement de boulot aussi que s'ils ont des grilles toutes prêtes, bon, tel type de délit correspond à tel type de peine, ben ça va être, les dossiers seront bien plus vite traités. Et comme tu dis, le juge d'instruction, s'il n'y est plus non plus, effectivement, les mecs, ils vont se retrouver avec un boulot monstrueux. Et ça ne sera pas possible, ça ne va pas se gérer. Soit il va falloir faire appel à d'autres gens qui ne seront pas, qui seront des bénévoles, là, comme ils commencent à faire avec, dans certains bleds, ils appellent des notables qui rendent les petites, qui rendent justice pour les petites affaires comme les divorces. Et là, on voit bien qu'encore la justice, si c'est le docteur du coin qui va décider comment ça se passe, ou le comptable, ça va être encore quelque chose de plus monstrueux, quoi.
Oui, et puis il y a quand même, par ce fait de justice systématique, automatique, je pense qu'il y a aussi une volonté de, que plein d'actes ou, soit, enfin, qu'il soit possible de poursuivre encore plus d'actes que ce qu'il y a maintenant, oui. Quoi. Et que du coup, par rapport à ce que tu dis, forcément, eh ben, on va faire appel à des bénévoles, etc. Enfin, on voit bien avec la création des nouveaux délits. Je ne sais pas si tu voulais en parler, la création des nouveaux délits. Du coup, on voit bien aussi ce mouvement où des choses. Enfin, il y a en même temps un allongement des peines et à la fois tout un tas de trucs qui n'étaient pas poursuivis avant, qui le sont maintenant, des trucs qui sont assez absurdes.
Ouais, ouais, mais il y a déjà pas mal de délits qui ont été mis en place. Comme par exemple le délit d'outrage au drapeau tricolore, à l'hymne national, il y a les regroupements en bas des escaliers, il y avait le délit de fauchage qui était avant peut-être un.
Bah en fait, avant, je crois que ça existait, enfin, c'était pas marqué tel quel dans un texte de loi et du coup c'était sous une autre formulation où ça devait être destruction du bien public commis en réunion et que du coup maintenant ça existe clairement dans les textes de loi donc il y a. Plus aucune possibilité pour le juge d'essayer de contourner la loi s'il en a la volonté, ce qui est rarement le cas, mais il a même plus cette possibilité-là, quoi.
Et après, il y a toute une série de propositions de loi qui ont été pondues. Je ne sais pas si je les explique en détail, je ne pense pas, mais il y a par exemple le délit de solidarité, le fait d'aider les personnes qui veulent rentrer ou sur le territoire français, qui sont en situation irrégulière. Donc ça, c'est un délit de solidarité. Il y a aussi actuellement, on a l'impression que chaque fait divers, à chaque fait divers, on applique une loi. Par exemple, les manifs à Strasbourg, la manif de l'OTAN à Strasbourg, on a trouvé une loi, la loi qui interdit le port de cagoule, et j'ai même trouvé le port d'armes en manif, quoi. Donc où on situe l'arme, ça j'en sais rien, mais donc on a l'impression qu'il y a un fait divers, une loi. C'est pareil pour les lois anti-bandes. Il s'avère que la loi anti-bandes n'a pas été encore promulguée, mais elle va être votée à l'Assemblée nationale fin mai. Mais elle fait suite à l'attaque de deux bandes rivales au lycée à Saint-Denis le 18 mars. Et donc c'est un fait divers, une loi, de plus en plus.
Donc, oui, on avait eu avec ça aussi par rapport à la rétention de sûreté. Il y avait eu un fait divers d'un gars... qui était sorti, un ancien pédophile, et puis il a finalement reviolé une personne, et donc la loi sur la rétention de sûreté est sortie à ce moment-là. Donc à chaque fois, c'était un peu pour dans ton sens.
Quoi. Oui, c'est vrai que la rétention de sûreté, c'est à peu près le même système, et je trouve que même il y a un lien avec... un lien avec la création de tous les nouveaux délits, où c'est justement d'essayer d'enfermer le plus de gens possible et le plus longtemps possible. Et la rétention de sûreté, c'est ça. Ou, bon, peut-être expliquer ce que c'est la rétention de sûreté, que du coup, c'est une mesure. Donc, c'est passé, ça. La loi est passée en février 2008. Et donc, c'est une mesure qui vise à maintenir enfermés des gens qui sont en fin de peine et qui seraient considérés comme dangereux. Donc, en gros... C'est les gens qui ont été condamnés au moins à 15 ans de prison, ou à plus. Et même les mineurs, d'ailleurs, j'ai vu ça, même les mineurs de 15 à 18 ans sont concernés aussi par la loi. Et du coup, alors en fait, au départ, il y a eu une sorte de processus d'extension, comme il y en a pour pas mal de lois, où au départ, c'était pour les personnes qui auraient commis des crimes, donc assassinat, meurtre, torture, viol, etc., sur une personne mineure. Et au final... C'est aussi pour les personnes qui auraient commis ce genre d'acte, mais en aggravé, sur des personnes majeures.
Et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais plus si c'était le président ou son ministre de la Justice qui avait dit « Imposer une peine de sûreté après la peine de prison à tous ces prédateurs qui, tant qu'ils ne se feront pas soigner, ne sortiront pas de prison ». Donc voilà, c'est bien le fait divers qui a engendré une nouvelle loi qui aura des conséquences à vie sur ces personnes, parce que les gens qui doivent se soigner, ben, y a eu aussi la loi sur l'injonction de soins. Tu voulais...
Oui, moi je voulais rajouter un truc en fait sur la rétention de sûreté. C'est que c'est présenté comme un truc qui sera pour les méchants pédophiles et les gens qui torturent et tous ces affreux personnages. Et comme on l'a déjà dit, y a plein de lois assez horribles qui sont passées. Et on a dit d'abord que c'était pour les affreux pédophiles, les criminels, les meurtriers sanguinaires. Et après, ben, ça s'est étendu à tout le monde. Alors je radote un peu parce qu'on l'a déjà dit, mais pour la rétention de sûreté, c'est ça qui peut faire carrément peur. C'est que moi, ce dont j'ai peur, c'est que les gens qui se retrouvent en rétention de sûreté, c'est les gens comme les gens d'Action Directe, comme d'autres gens beaucoup moins connus, mais qui en fait se rebellent en prison ou ne se laissent pas faire. Et qu'eux, on dise « Ah, lui, il est très dangereux, il sortira jamais ». Et c'est une menace et un chantage vraiment énorme pour ces personnes. Et moi, ça me fait vraiment peur dans cette loi, par exemple.
Ben, on peut bien imaginer aussi que Christophe Kider, qui est quelqu'un de pas soumis à la prison, puisse finir aussi dans ce genre d'endroit. Parce que s'il reste aussi péchu qu'il est actuellement, ben, il est mal barré, quoi. À moins que finalement il accepte les injonctions de soins qui sont devenues des choses... ce n'est pas obligatoire, mais si tu ne t'y soumets pas, tu n'as pas les réductions de peine, tu n'as pas des libérations conditionnelles. Et on peut bien imaginer que ce genre de personnes les refusent. Donc pour un petit peu étayer les injonctions de soins... par rapport justement, alors c'est souvent les personnes qui ont commis des actes, comment on dit, des crimes sexuels à qui on leur propose, entre autres. Hein, et ben dans ces personnes, il y a 94% des gens qui ont accepté de se faire soigner, et finalement il y a 1% des personnes qui bénéficient de libération conditionnelle, alors que la grosse pression de la détention, c'est de dire « mais si vous acceptez ces soins, on va faire quelque chose pour vous en échange ». Et en fin de compte, il ne se passe rien. Et même des réductions de peine, il n'y a que 50% de ces gens qui bénéficient de réductions de peine. Alors, on en avait parlé déjà quand la loi était sortie, mais aujourd'hui, on en parle avec le recul un an et demi après. Qu'est-ce que ça produit, ce genre de choses ? Avec, et d'un côté, ce qui peut être positif, c'est-à-dire 1% des gens qui ont eu des libérations conditionnelles. Et de l'autre côté, tout ce qui peut être négatif, amené aussi par ces lois, c'est que... Entre autres, il y a des gens qui demandent à être soignés, alors qu'ils n'ont même pas besoin d'être soignés, et qui demandent à être soignés pour pouvoir bénéficier de remises de peine. Alors, c'est le truc de dingue. Et du coup, les médecins, il n'y a pas assez de médecins pour pouvoir soigner tout le monde et pour pouvoir faire des expertises auprès de tous les détenus, alors que les détenus réclament d'être soignés. Et c'est-à-dire qu'on les cachetonne encore plus... que suivre une thérapie en prison, alors là, on n'en parle même pas, je ne vois pas trop comment on peut faire, mais les mecs, les personnes réclament des thérapies pour pouvoir avoir en échange la carotte. Donc on tombe vraiment dans un système où les gens sont encore plus cachetonnés et où ça devient du n'importe quoi.
Mais d'où la rétention de sûreté aussi, en fait.
Exactement.
Parce que ça t'a un peu présenté comme... vous avez déjà passé 25 ans en tôle, 30 ans en tôle, et du coup, cette fois, vous allez pouvoir suivre une vraie thérapie en centre de rétention, en fait.
Ben oui, vu qu'il n'y a pas les moyens en détention propre, dans les établissements, il n'y a pas assez de médecins, donc il faut quand même trouver les médecins, c'est ce que tu veux dire ?
Oui.
Et qu'en fait, ben, on va leur proposer à ce moment-là, en rétention de sûreté, toute la panoplie des médecins, des éducateurs...
Où là, il y aura vraiment des médecins.
Où il y aura vraiment tout le personnel nécessaire. Et alors qu'en détention, d'après ce qu'on a trouvé comme info, il n'y a pas tous ces médecins. Rachida Dati avait promis 450 médecins. Et en fin de compte, il y en a 240 qui existent vraiment. Ils ont proposé des augmentations de salaire pour que le travail devienne attrayant. Mais comment suivre, enfin, les psychiatres qui parlent de ça en détention, comment faire suivre une thérapie en détention.
C'est là où on voit aussi que le système, il est...
C'est contradictoire.
Il est aberrant, en fait, où les gens s'aperçoivent... Ah oui, on va devoir arrêter. Je finis juste vite fait. Où on s'aperçoit que le système est complètement inutile, etc., et qu'il n'y a absolument personne, vu comme le... avec un système carcéral qui détruit plus qu'autre chose, personne ne peut soigner en prison. Alors du coup, on crée encore des étapes supplémentaires pour vraiment soigner les gens, etc. Et ça ne marchera toujours pas parce que les gens, ils sont enfermés. Et pour les gens qui peuvent véritablement avoir des problèmes en prison, il en existe. Ça ne sert à rien. Et du coup, on invente toujours des nouveaux trucs alors que ça ne sert strictement à rien et que ça ne servira pas à grand-chose non plus la rétention de sûreté.
Ben oui, en fait, si pendant 25 ans, ils sont en prison, encore 10 ans en rétention de sûreté, le mec, il finit par avoir 75 ans et il clapse à la fin. Donc, c'est encore une fois pour démontrer que l'enfermement comme punition, c'est vraiment pas la bonne solution, quoi.
Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter. Alors, pour ceux qui voudraient plus d'infos, les infos, en gros, on les avait trouvées quand même pas mal sur le site du syndicat de la magistrature et le site des avocats du syndicat des avocats de France. Il y a plein d'autres trucs, comme pour l'instant maintenant un nouveau code pénal pour les mineurs qui est assez affreux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais pour ceux qui veulent des infos, vous pouvez aller fouiner de ce côté-là. C'est...
En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'ennemi intérieur, en fait, c'est le prisonnier, quoi.
Gros blanc.
Et ouais, et aussi pour les gens qui sont enfermés et qui veulent des infos, vous pouvez aussi nous écrire. On peut aussi essayer de vous faire passer des infos qu'on trouve sur Internet, vu qu'en prison, vous n'y avez pas accès. Ben voilà, on peut faire les recherches, essayer de vous trouver des infos.
Oui, tout à fait. J'ai oublié de le noter, mais oui.
Oui.
Voilà, donc l'émission Papillon va bientôt toucher à sa fin. On voulait vous donner quelques dernières infos, contacts, précisions, rappels, remarques avant de vous quitter. Moi, je voulais faire une remarque vite fait. On a appris aujourd'hui à grand renfort de communication médiatique que 400 prisonniers des prisons de Saint-Paul-Saint-Joseph à Lyon avaient été transférés à la nouvelle prison de Corbas. Donc... comme d'habitude, on n'a que la parole de l'administration pénitentiaire et des politiques, etc. Jamais le point de vue des prisonniers. On nous présente cette nouvelle prison comme une magnifique nouvelle prison, tout comme celle de Roanne. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir le point de vue des gens qui la vivent de l'intérieur ou de leurs proches. Donc n'hésitez pas à faire tourner le message et à nous faire remonter des infos et témoignages. Pareil, on vous donne l'adresse dans quelques minutes. Mais voilà, en tout cas, c'est pas, au vu de tout ce qu'on a dit dans l'émission, c'est pas une prison toute neuve qui va arranger les problèmes. Faut pas se leurrer.
L'agenda ?
Ouais. Alors... on va peut-être faire une petite présentation du dernier envolé avant. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc voilà, on va aller assez vite. Toujours est-il qu'on peut, tout ça pour dire que vous pouvez vous le procurer en prison. Donc n'hésitez pas à écrire. Là, je vous donne l'adresse. Donc c'est l'Envolé, 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Et donc pour ceux qui veulent envoyer un mail, ceux de l'extérieur, c'est envoléjournal@yahoo.fr. Pour ceux qui veulent se le procurer à Saint-Étienne. il est à l'étrange rendez-vous, le librairie de bande dessinée, qui est au 1 rue Fort-Belon, 42 000 Saint-Étienne, donc pas loin de la Bourse du Travail. Donc voilà, il y a plusieurs choses, je vais pas détailler le sommaire, mais il y a quand même pas mal de... Il est assez intéressant, il y a plein de témoignages sur ce numéro-là, quoi. Et donc voilà, c'est gratuit pour les prisons, pour les prisonniers, et 2 euros pour les gens de l'extérieur, donc n'hésitez pas. Oui, vous pouvez nous le demander aussi à l'adresse qu'on répétera en fin d'émission.
Voilà.
Le faire maintenant au niveau de l'adresse, non? Alors, vous pouvez nous écrire à Émission Papillon, chez Radio Dio, 15 bis rue de Roubaix. Ah, 14. Non, j'ai 15. Bon. Donc, c'est 14 bis rue de Roubaix, désolé. 42 000 Saint-Étienne. Et aussi, on a une adresse mail. Donc c'est émission papillon tout accroché @riseup.net. Donc riseup c'est R-I-S-E-U-P. Et juste pour dire, cette émission elle sera rediffusée, on le rappelle, le jeudi 7 mai, donc à midi et à 17h. Donc toujours sur Radio Dio en direct 89.5 ou sinon sur internet www.radiodio.org. Et elle sera aussi diffusée à Lyon, donc avec Radio Canu 102.2 FM. Et ça sera le mardi 19 à 20h, ou sinon en direct sur le net, http://radio.canu.free.fr. Voilà.
Voilà, sinon, il y a le collectif Sans Papier de Saint-Étienne qui est très actif en ce moment. Alors, ils vont proposer pas mal d'événements en juin, donc on aura, j'espère, l'occasion de vous en reparler plus longuement. Mais... en tout cas, ils font des permanences d'accès au droit. C'est les lundis de 18h30 à 20h30. Et c'est à la dérive, c'est 31 rue Basse-Dérive, vers la fac Tréfilerie, vers la salle qui s'appelle La Clé de Voûte. Voilà. Gardez votre stylo en main, parce que si vous voulez les joindre, je vais vous donner au moins leur téléphone portable. Donc c'est 06 47 58 24 74. 06 47 58 24 74. Et je rappelle, les permanences d'accès au droit, c'est les lundis de 18h30 à 20h30. Voilà, le collectif Sans Papier de Saint-Étienne.
Là encore, gardez vos stylos, parce que donc, je rappelle le contact de l'OIP, donc OIP Observatoire International des Prisons, coordination Rhône-Alpes, 57 rue Sébastien Griff, 69 007 Lyon. Il y a aussi un téléphone 09 50 92 00 34 09 50 92 00 34. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'OIP www.oip.org et là vous aurez le contact mail, par exemple pour les proches de détenus, donc pour écrire directement. Gardez encore vos stylos. Comme promis, les numéros d'écrou de Christophe, Omar et Sylvie. Qui souhaitent ils sont publics, donc voilà, écrivez-leur. Christophe Kider, écrou numéro 290 541 F, quartier d'isolement, 42 rue de la Santé, 75 014 Paris, CEDEX. L-Hadj Omar Top, ça s'écrit E-L-H-A-D-J Omar Top, T-O-P, écrou numéro 371 640 G, numéro 371 640 G, maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis, bâtiment D2, quartier disciplinaire, 7 allée des Peupliers, 91 705 Fleury-Mérogis. Sylvie Picciotti, donc ça s'écrit son nom de famille P-I-C-I O2TI, écrou numéro 32 000, maison d'arrêt La Talaudière, rue Sauvagère, Sauvagère S-A-U-V-A-G-E, accent grave R-E, BP 25, 42 350 Saint-Étienne. À noter que peut-être en juin, nous organiserons quelque chose aussi autour des longues peines, une rencontre. Voilà.
Voilà, ben on n'a plus qu'à vous dire au revoir. Vous souhaitez bon courage.
Un grand bonjour à Sylvie. J'ai reçu ta lettre hier. Voilà. Et donc, je compte te réécrire. Et au passage, je t'en ai envoyé une avant-hier. Voilà.
Voilà, grosse bise à Sylvie, à Nabil, bon courage à Nabil tous les détenus de la Talo. Et quant à nous, on se retrouve en direct le premier dimanche de juin à 17h30 et je crois qu'on parlera de la santé en prison. Si d'ici là vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Hein.
14 bis, rue de Roubaix.
Voilà, bonne soirée, bon courage à tous.
À bientôt.
Et
à toutes.
Putain de cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.